Dès qu'il eut fini sa besogne journalière, il songea à la façon dont il arrangerait sa chambre pour recevoir sa maîtresse et dissimuler le mieux possible la pauvreté du local. Il eut l'idée d'épingler sur les murs de menus bibelots japonais, et il acheta pour 5 francs toute une collection de crépons, de petits éventails et de petits écrans, dont il cacha les taches trop visibles du papier. Il appliqua sur les vitres de la fenêtre des images transparentes, représentant des bateaux sur des rivières, des vols d'oiseaux à travers des ciels rouges, des dames multicolores sur des balcons et des processions de petits bonshommes noirs dans les plaines remplies de neige. Son logis, grand tout juste pour y dormir et s'y asseoir, eut bientôt l'air de l'intérieur d'une lanterne de papier peint. Il jugea l'effet satisfaisant et il passa la soirée à coller sur le plafond des oiseaux découpés dans des feuilles coloriées qui lui restaient. Puis il se coucha, bercé par le sifflet des trains. Il rentra de bonne heure le lendemain, portant un sac de gâteaux et une bouteille de madère achetée chez l'épicier. Il dut ressortir pour se procurer 2 assiettes et 2 verres, et il disposa cette collation sur sa table de toilette, dont le bois sale fut caché par une serviette, la cuvette et le pot à l'eau étant dissimulés par-dessous. Puis il attendit. Elle arriva vers 5h15, et, séduite par le papillonnement coloré des dessins, elle s'écria « Tiens, c'est gentil chez vous, mais il y a bien du monde dans l'escalier. » Il l'avait prise dans ses bras et il baisait ses cheveux avec emportement, entre le front et le chapeau, à travers le voile. 1h30 plus tard, il la reconduisit à la station de fiacre de la rue de Rome. Lorsqu'elle fut dans la voiture, il murmura « Mardi, à la même heure. » Elle dit « À la même heure, mardi. » Et comme la nuit était venue, elle attira sa tête dans la portière et le baisa sur les lèvres. Puis, le cocher ayant fouetté sa bête, elle cria « Adieu, belle amie !» Et le vieux coupé s'en alla au trot fatigué d'un cheval blanc. Pendant 3 semaines, Duroy reçut ainsi Madame de Marelle tous les 2 ou 3 jours, tantôt le matin, tantôt le soir. Comme il l'attendait, un après-midi, un grand bruit dans l'escalier l'attira sur sa porte. Un enfant hurlait. Une voix furieuse, celle d'un homme, cria « Qu'est-ce qu'il a encore à gueuler, ce bougre-là » La voix glapissante et exaspérée d'une femme répondit « C'est ce sale cocotte qui vient chez le journaliste, grand-haut, qui a renversé Nicolas sur le palier !» Comme si on devrait laisser des roulures comme celles qui ne font seulement pas attention aux éléphants dans les escaliers !» Duroy, éperdu, se recula car il entendait un rapide frôlement de jupe et un pas précipité gravissant l'étage au-dessous de lui. On frappa bientôt à sa porte, qu'il venait de refermer, il ouvrit, et Madame de Marelle se jeta dans la chambre, essoufflée, affolée, balbutiant. « As-tu entendu ?» Il fit semblant de ne rien savoir. « Non, quoi ? Comme ils m'ont insulté ? Qui ça ? Les misérables qui habitent au-dessous ?»« Mais non, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi !» Elle se mit à sangloter sans pouvoir prononcer un mot. Il dut la décoiffer, la délacer, l'étendre sur le lit, lui tapoter les tempes avec un linge mouillé. Elle suffoquait. Puis, quand son émotion se fut un peu calmée, toute sa colère indignée éclata. Elle voulait qu'il descendît tout de suite, qu'il se battît, qu'il les tuât. Il répétait « Mais ce sont des ouvriers, des rustres. Songe qu'il faudrait aller en justice, que tu pourrais être reconnu, arrêté, perdu. On ne se commet pas avec des gens comme ça. » Elle passa à une autre idée. « Comment ferons-nous maintenant ? Moi, je ne peux pas rentrer ici. » Il répondit « C'est bien simple, je vais déménager. » Elle murmura « Oui, mais ce sera long !» Puis, tout d'un coup, elle imagina une combinaison et, rassérénée brusquement, « Non, écoute, j'ai trouvé. Laisse-moi faire, ne t'occupe de rien, je t'enverrai un petit bleu demain matin. » Elle appelait des petits bleus les télégrammes fermés circulant dans Paris. Elle souriait maintenant, ravie de son invention, qu'elle ne voulait pas révéler, et elle fit 1000 folies d'amour. Elle était bien émue, cependant, en redescendant l'escalier, et elle s'appuyait de toute sa force sur le bras de son amant, tant elle sentait fléchir ses jambes. Ils ne rencontrèrent personne. Comme il se levait tard, il était encore au lit le lendemain vers 11 heures, quand le facteur du télégraphe lui apporta le petit bleu promis. Duroy l'ouvrit et lut « Rendez-vous tantôt, 5 heures, rue de Constantinople, 127. Tu te feras ouvrir l'appartement loué par Madame Duroy. Clos t'embrasse. » À 5 heures précises, il entrait chez le concierge d'une grande maison meublée et demandait « C'est ici que Madame Duroy a loué un appartement ?»« Oui, monsieur. Voulez-vous m'y conduire, s'il vous plaît ?» L'homme, habitué sans doute aux situations délicates où la prudence est nécessaire, le regardant dans les yeux, puis choisissant dans la longue file de clés « Vous êtes bien monsieur Duroy ?»« Mais oui, parfaitement. » Et il ouvrit un petit logement composé de 2 pièces et situé au rez-de-chaussée en face de la loge. Le salon, tapissé de papier ramagé, assez frais, possédait un meuble d'acajou recouvert en reps verdâtre à dessins jaunes et un maigre tapis à fleurs, si mince que le pied sentait le bois par-dessous. La chambre à coucher était si exiguë que le lit l'emplissait aux 3/4. Il tenait le fond, allant d'un mur à l'autre à un grand lit de maison meublé, enveloppé de rideaux bleus et lourds, également en reps et écrasé sous un édredon de soie rouge maculé de taches suspectes. Duroy, inquiet et mécontent, pensait « Ça va me coûter un argent fou, ce logis-là. Il va falloir que j'emprunte encore. C'est idiot, ce qu'elle a fait. » La porte s'ouvrit et Clotilde se précipita en coup de vent avec un grand bruit de robe, les bras ouverts. Elle était enchantée. « Est-ce gentil ? Dis, est-ce gentil ? Et pas à monter, c'est sur la rue, au rez-de-chaussée. On peut entrer et sortir par la fenêtre sans que le concierge vous voie. Comme nous nous aimerons là-dedans. » Il l'embrassait froidement, n'osant faire la question qui lui venait aux lèvres. Elle avait posé un gros paquet sur le guéridon, au milieu de la pièce. Elle l'ouvrit et en tira un savon, une bouteille d'eau de Lubin, une éponge, une boîte d'épingles à cheveux, un tire-bouchon et un petit fer à friser pour ajuster les mèches de son front qu'elle défaisait toutes les fois. Et elle joua à l'installation, cherchant la place de chaque chose, s'amusant énormément. Et elle parlait tout en ouvrant les tiroirs. « Il faudrait que j'apporte un peu de linge pour pouvoir en changer à l'occasion. Ce sera très commode. Si je reçois une averse, par hasard, en faisant des courses, je viendrai me sécher ici. Nous aurons chacun notre clé, outre celle laissée dans la loge pour le cas où nous oublierions les nôtres. J'ai loué pour 3 mois, à ton nom, bien entendu, puisque je ne pouvais donner le mien. » Alors il demanda « Tu me diras quand il faudra payer ?» Elle répondit simplement « Mais c'est payé, mon chéri. » Il reprit « Alors c'est à toi que je le dois. » « Mais non, mon chat, ça ne te regarde pas. C'est moi qui veux faire cette petite folie. » Il eut l'air de se fâcher « Ah mais non ! Par exemple, je ne le permettrai point. » Elle vint à lui suppliante et posant les mains sur ses épaules « Je t'en prie, Georges, ça me fera tant de plaisir. » Tant de plaisir que ce soit à moi, notre nid, rien qu'à moi. Ça ne peut pas te froisser. En quoi ? Je voudrais apporter ça dans notre amour. Dis que tu veux bien, mon petit Géo, dis que tu veux bien. » Elle l'implorait du regard, de la lèvre, de tout son être. Il se fit prier, refusant avec des mines irritées, puis il céda, trouvant cela juste, au fond. Et quand elle fut partie, il murmura en se frottant les mains et sans chercher dans les replis de son cœur d'où lui venait ce jour-là cette opinion. « Elle est gentille tout de même. » Il reçut quelques jours plus tard un autre petit bleu qui lui disait « Mon mari arrive ce soir après 6 semaines d'inspection. Nous aurons donc relâche 8 jours. Quelle corvée, mon chéri. Ta Clos. » Duroy demeura stupéfait. Il ne songeait vraiment plus qu'elle était mariée. En voilà un homme dont il aurait voulu voir la tête, rien qu'une fois pour le connaître. Il attendit avec patience cependant le départ de l'époux. Mais il passa aux Folies Bergères 2 soirées qui se terminèrent chez Rachel. Puis un matin, Nouveau télégramme contenant 4 mots. Tantôt, 5 heures. Clos. Ils arrivèrent tous les deux en avance au rendez-vous. Elle se jeta dans ses bras avec un grand élan d'amour, le baisant passionnément à travers le visage. Puis elle lui dit « Si tu veux, quand nous nous serons bien aimés, tu m'emmèneras dîner quelque part ? Je me suis faite libre. » On était justement au commencement du mois, et bien que son traitement fût escompté longtemps d'avance, et qu'il vécût au jour le jour d'argent cueilli de tous les côtés, Duroy se trouvait par hasard en fond, et il fut content d'avoir l'occasion de dépenser quelque chose pour elle. Il répondit « Mais oui, ma chérie, où tu voudras. » Ils partirent donc vers 7 heures et gagnèrent le boulevard extérieur. Elle s'appuyait fortement sur lui et lui disait dans l'oreille « Si tu savais comme je suis contente de sortir à ton bras, comme j'aime te sentir contre moi. » Il demanda « Veux-tu aller chez le père Latuile ?» Elle répondit « Oh non, c'est trop chic. Je voudrais quelque chose de drôle, de commun, comme un restaurant où vont les employés et les ouvrières. J'adore les parties dans les guinguettes. Oh, si nous avions pu aller à la campagne !» Comme ils ne connaissaient rien en ce genre dans le quartier, ils errèrent le long du boulevard et ils finirent par entrer chez un marchand de vin qui donnait à manger dans une salle à part. Elle avait vu, à travers la vitre, 2 fillettes en cheveux attablées en face de 2 militaires. 3 cochers de fiacre dînaient dans le fond de la pièce étroite et longue, et un personnage, impossible à classer dans aucune profession, fumait sa pipe, les jambes allongées, les mains dans la ceinture de sa culotte, étendu sur sa chaise et la tête renversée en arrière par-dessus la barre. Sa jaquette semblait un musée de taches, et dans les poches, gonflées comme des ventres, on apercevait le goulot d'une bouteille, un morceau de pain, un paquet enveloppé dans un journal et un bout de ficelle qui pendait. Il avait des cheveux épais, crépus, mêlés, gris de saleté. Et sa casquette était par terre, sous sa chaise. L'entrée de Clotilde fit sensation par l'élégance de sa toilette. Les 2 couples cessèrent de chuchoter, les 3 cochers cessèrent de discuter, et le particulier qui fumait, ayant ôté sa pipe de sa bouche et craché devant lui, regarda en tournant un peu la tête. Madame de Marelle murmura « C'est très gentil, nous serons très bien. Une autre fois, je m'habillerai en ouvrière. » Et elle s'assit sans embarras et sans dégoût en face de la table de bois vernie par la graisse des nourritures, lavée par les boissons répandues et torchée d'un coup de serviette par le garçon. Duroy, un peu gêné, un peu honteux, cherchait une patère pour y pendre son haut chapeau. N'en trouvant point, il le déposa sur une chaise. Ils mangèrent un ragoût de mouton, une tranche de gigot et une salade. Clotilde répétait « Moi, j'adore ça. J'ai des goûts canailles. Je m'amuse mieux ici qu'au café anglais. » Puis elle dit « Si tu veux me faire tout à fait plaisir, tu m'amèneras dans un bastringue. J'en connais un très drôle près d'ici qu'on appelle la Reine Blanche. » Duroy, surpris, demanda « Qui est-ce qui t'a mené là ?» Il la regardait et la vit rougir, un peu troublée, comme si cette question brusque eût éveillé en elle un souvenir délicat. Après une de ces hésitations féminines si courtes qu'il les faut deviner, elle répondit « C'est un ami. » Puis, après un silence, elle ajouta « Qui est mort ?» Et elle baissa les yeux avec une tristesse bien naturelle. Et Duroy, pour la première fois, songea à tout ce qu'il ne savait point dans la vie passée de cette femme, et il rêva. Certes, elle avait eu des amants, déjà. Mais de quelle sorte? De quel monde? Une vague jalousie, une sorte d'inimitié s'éveillait en lui contre elle. Une inimitié pour tout ce qu'il ignorait, pour tout ce qui ne lui avait point appartenu dans ce cœur et dans cette existence. Il la regardait, irrité du mystère enfermé dans cette tête jolie et muette et qui songeait, en ce moment-là même peut-être, à l'autre, aux autres, avec des regrets. Comme il eût aimé regarder dans ce souvenir, y fouiller et tout savoir, tout connaître. Elle répéta « Veux-tu me conduire à la Reine Blanche ? Ce sera une fête complète. » Il pensa « Bah, qu'importe le passé. Je suis bien bête de me troubler de ça. » Et, souriant, il répondit « Mais certainement, ma chérie. » Lorsqu'ils furent dans la rue, elle reprit tout bas avec ce ton mystérieux dont on fait les confidences. « Je n'osais point te demander ça, jusqu'ici, mais tu ne te figures pas comme j'aime ces escapades de garçons dans tous ces endroits où les femmes ne vont pas. Pendant le carnaval, je m'habillerai en collégien. Je suis drôle comme tout en collégien. » Quand ils pénétrèrent dans la salle de bal, elle se serra contre lui, effrayée et contente, regardant d'un œil ravi les filles et les souteneurs et, de temps en temps, comme pour se rassurer contre un danger possible, elle disait, en apercevant un municipal grave et immobile, « Voilà un agent qui a l'air solide. » Au bout d'un quart d'heure, elle en eut assez et il la reconduisit chez elle.